Bonjour.
Avec un nouveau défi, avec Morgane et Mignon. Mais c'est Paul Mirabel.
Bonjour.
Il était en retour,
Paul. Le grand retour de Paul Mirabel. Alexandre Cominel. Tanguy Passureau.
Bonjour.
Notre invité, c'est Charlotte Gainsbourg.
Yes.
Déjà, comment ça va, Paul Mirabel? Franchement, j'avais peur de pas te reconnaître.
Mais ça va, et vous? Mais il est absent depuis si longtemps que ça?
Ouais.
Ah bon?
Ça faisait combien de temps que t'étais pas venu?
Avant les vacances.
Bah tu vois?
Oui. Oh, ça va.
Il a tellement cartonné, c'est pendant les vacances, sur scène.
Ça se contente. Ah bon, c'était ça qui t'a retenu ou t'avais pas envie de nous voir?
Plusieurs raisons que je vous exposerai dans ma chronique.
Ah, voilà.
Ok, tu vas
voilà
tout
un teasing.
Tu vas tout nous dire. j'ai rien qui fonctionne dans mon, j'ai un silence total, donc,
on est bien
pour
comme
le blind
ça.
Test. Rien du tout. On à la main à l'ancienne, comme on dit. Très bien. Allons-y gaiement. Notre invité étant Charlotte Gainsbourg, qui nous parle
et
qui nous raconte
donc
la vie de Jane. Ça va être extrêmement simple.
Tanguy. Ex-fan des 60s.
Joli. Oh, ça chaloupe. Que sont devenues toutes tes idoles. Quel est ce titre, hein?
Tanguy,
oui.
Didouda.
Oh là 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 là.
Ah bah oui, mais faut pas me chercher sur Didouda.
C'est spécial Jane Birkin.
Bien.
La fatigue.
Je peux pas te sauver la suite.
Et moi, je dis que c'est la meilleure vanne de la journée.
Je peux pas.
Les chaurons.
Les chaurons. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, les chaurons.
Non, mais on va vous laisser Tanguy et Nagui, quoi.
Non, mais c'est
vrai. Pardon, hein.
Allez boire un café, non. C'était alors, juste rigolo.
Donnez-moi ce titre.
Tanguy.
Oui.
Bon, 69 et érotique, non? Ah non, je t'aime moi non plus, pardon.
Exactement.
Moi, allez, j'arrête. Oh.
Entre tes. Ah, vas-y, mets leur
il le fait pas mal.
Vas-y. Déchire tout, Tanguy. Quel est donc le titre de cette chanson?
Moi je sais, mais bon, je le dis pas du coup.
Là, Mélodie Nelson.
Non, 69 années érotiques.
Harley Davidson.
Non, 69 années érotiques.
Mais non, mais c'est pas. Harley Davidson, ça va pas.
Non, mais j'ai fait rêver.
Ce que tu fais, tu fais un 69 avec une Harley Davidson, ça s'appelle un tête à queue. Hein, c'est...
Ah, je croyais que vous l'avez fait avant.
Non, il l'avait dit, mais c'était pas ça.
Ah, voilà.
Ni dans le platane.
Quel est ce titre?
Tanguy.
Oui.
La piscine?
Non.
Non, pardon. Ben non, je bug.
Morgane, fuir le bonheur avant qu'il ne
meure.
C'est ça.
Et ça sera mon seul point.
Bah, il est beau, hein,
ça.
Tellement belle, cette chanson.
T'as vraiment bugué?
Ouais, oui.
Quel est donc ce titre?
Tanguy.
Oui.
Les deux sous chics.
Joli. Les deux sous chics, ce sont des contrats résiliés. 5 points pour Tanguy, 1 pour Morgane. Et alors, t'as bien fait de revenir, hein,
la
Paul.
Fierté,
hein.
Là,
franchement, tu bouleverses tout.
Bah ouais.
Attention, tout se joue sur ce dernier titre.
Leïla,
Tanguy.
Je veux du soleil.
Non,
Tanguy, la gadoue.
Victoire de Tanguy.
Tanguy,
un mot, une déclaration à la foule.
Bah, j'adore Jane Birkin, tout simplement.
Ça commence comme ça, pareil.
Écoute, t'adores Jane Birkin, en tout cas, ça te permet de gagner ce blind test. Et merci d'accueillir Charlotte Gainsbourg. Bonjour Charlotte.
Avec Nagui.
Tout va bien, on est ravis de vous accueillir en
Merci,
tout cas.
Moi
la
aussi,
première content. Question qu'on a envie de vous poser, à part de savoir si vous allez bien.
Ça va, oui, moi.
Comment va Jane?
Elle va très bien. Elle est remontée sur scène avant-hier. Donc, j'avais un peu la trouille. Je crois qu'on avait tous la trouille. Et en fait, comme d'hab, en fait, elle est. Voilà, tout va bien.
Ok, bah c'est l'essentiel, parce que c'est vrai que ce film, ce documentaire, cette rencontre, cette psychanalyse, je ne sais pas quel nom donner. Il y a des moments où on n'est pas loin quand même, parce que ça reste évidemment deux icônes, la rencontre de Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. N'importe quel producteur d'émission ou de cinéma ou de chanson rêverait de les réunir. Là, évidemment, c'est la rencontre d'une maman et de sa fille, ou d'une nanny et de ses petits-enfants aussi par moment. C'est extrêmement touchant. Mais ce qui est touchant aussi, c'est de voir ce qui se passe dans une famille, ce qui s'est passé dans les valeurs de l'éducation, ce qui s'est passé dans les gestes de l'éducation que vous avez reproduits chacun dans votre coin. Comment est née l'idée? Et d'ailleurs, l'idée a évolué. Apparemment, au début, ça devait être un peu plus un road movie.
Oui, c'était très vague. En fait, je voulais l'idée, c'était de la filmer telle qu'elle est aujourd'hui. Je l'avais vue sur scène vraiment peu de temps avant de lui proposer, justement. Elle faisait le symphonique.
Ouais.
Donc c'était sublime.
Et on en revoit d'ailleurs quelques bouts d'ailleurs de ce symphonique avec Philippe Richaud, au Japon.
Ouais. Et du coup, j'étais très très émue par la magie qui est la sienne. Et en lui demandant si je pouvais l'accompagner peut-être au Japon et la filmer dans les coulisses et puis un peu sur scène, mais aussi au Japon en trouvant des lieux, un projet sur elle, ça pouvait lui plaire.
Charlotte, c'est pas un making of de concert que vous avez fait, c'est vraiment.
Mais pas du tout. C'était un peu trompeur parce que je pense que elle s'est dit bon que j'allais faire avec des archives une espèce de mix.
Un portrait.
Ouais. Ce qui était mon idée quand même de faire un portrait, sauf que je voulais un portrait d'aujourd'hui. Je voulais pas utiliser d'images d'archives. Et petit à petit. J'ai filmé sa sœur pourtant au Japon parce qu'elle était là, mais j'avais dans l'idée de filmer son frère, d'aller en Angleterre, de filmer...
Donc le documentaire s'est écrit au fur et à mesure que vous le tourniez ?
Oui, ça s'est rétréci autour de ma mère et moi. Après, j'ai embarqué ma petite fille parce que pour des raisons en fait...
L'une de vos filles ?
Ouais, la petite.
Ouais.
Parce que j'avais besoin de... J'étais pas à l'aise en fait de filmer ma mère toute seule. J'avais peur. Et avec ma fille, il y avait un côté beaucoup plus quotidien, banal, et ce qui a rajouté une couche en plus au film et une autre dimension. Et aussi ce côté génération où on parle de mon autre fille qui est aussi une deuxième.
Alice, ouais.
Alice. Et j'essaye de faire un lien entre ma mère qui est la deuxième, moi qui suis la deuxième aussi, Alice. Et je cherche
La deuxième dans la fratrie.
Vous aviez peur de filmer seule votre mère?
En fait, j'ai commencé justement ce documentaire avec une équipe, avec un chef-op, je voulais qu'elle soit belle, donc vraiment qu'on la soigne. Et c'était plus facile pour moi d'avoir une équipe et de lui raconter des choses ou de lui poser des questions avec une caméra qu'en tête à tête. Et ça, je l'ai compris. Bon.
Et vous le dites même, c'est ce qu'il y a dans le doc. Ouais. Il y a cette forme de pudeur qui vous a toujours distancé l'une l'autre et même une espèce de révélation. Vous avez l'air surprise d'entendre Jane dire à quel point vous l'impressionniez lorsque vous étiez enfant, intimidée. Et vous dites, oh ben non, quand même pas. Enfant, c'est enfant. Mais enfant, c'est de quel âge à quel âge exactement? Bon, alors dans prêt à porter, c'est de 0 à 18, hein, enfant.
Non, mais c'est vrai que j'avais des questions. Et là où le démarrage du projet ça a mal commencé, en fait, parce que justement, j'ai voulu rentrer dans le vif du sujet, mais en me disant, si je fais un documentaire sur elle, il faut que ce soit privé, il faut que ce soit, en tout cas, personnel. Et les questions qui m'intéressaient l'ont heurté au départ, parce qu'elle s'attendait à des questions plus professionnelles, enfin, ou sur son parcours, mais pas sur notre rapport intime. On avait perdu ma sœur, donc sa fille aînée, Kate. Et du coup, je pense qu'elle a cru que je voulais faire un règlement de compte ou que que j'allais lui reprocher son rôle de mère. Enfin, et j'ai évidemment tout arrêté quand elle m'a dit je veux plus. J'ai souffert en fait pendant cette interview, donc arrête.
C'est l'une des premières scènes d'ailleurs où elle se met à pleurer en disant, elle, avec ironie, ça commence bien, sous-entendu, ça va pas le faire.
on va s'arrêter là. Et au bout de 2 ans, on a regardé les rushs ensemble de ce que j'avais fait au Japon. Moi-même, j'avais pas osé les regarder tellement je pensais avoir été brutale et voilà, je m'en voulais. Et en regardant les images, on a vu que c'était touchant, qu'il y avait justement, c'était plus intéressant parce qu'il y avait un malaise, mais c'était très bienveillant, qu'il n'y avait pas de... Et elle voyait qu'elle avait réagi en stress et qu'il n'y avait pas forcément de raison.
Bah, donc, vous êtes rendu compte quand même que vous avez posé des questions à votre maman, que vous interdiriez n'importe quel journaliste à votre égard. C'est-à-dire que...
Oui, mais c'est normal.
A priori, c'est sa mère. Après, c'est une autre démarche que de faire en sorte que ce film soit vu par tous.
Je parle des questions que on ne peut pas poser à Charlotte. Je ne parle même pas à Jane. Je ne parle pas de la protection de Jane.
Mais quel genre de questions?
Ben, les questions sur justement sur l'intimité, sur la manière d'éduquer les enfants, sur.
Ah, mais oui, mais on fait pas ça en pro. On fait de la promo, nous.
D'accord,
mais la psychanalyse.
Et alors là, justement, pour revenir à la question de Leïla. Le projeter à tout le monde.
Alors c'est vrai, la démarche elle était égoïste, j'ai fait un film pour moi, j'ai fait un film pour elle, pour lui dire des choses, c'est une déclaration quand même qui était formulée sur 4 ans. Et après, on a compris que le film durait 1h30, qu'il allait pouvoir être projeté en salle, alors que moi j'imaginais je sais pas quoi en fait.
La télé peut-être.
Un truc en télé, quelque chose de petit. Et après on a été pris à Cannes, donc ça, d'un seul coup, effectivement, ça avait, le film allait avoir un trajet à lui, et être vu surtout. Et ce qui m'a rassurée, ça a été de voir des gens touchés par le film, et qui me disaient... À la limite, c'est pas qu'on s'en fout de que vous soyez connu ou pas, mais c'est que ça touche toutes les mères, toutes les filles. Enfin,
c'est exactement ça. C'est que d'abord, ça humanise des icônes parce que vous en êtes toutes les deux. Et ça, c'est même pas, j'allais dire, vous qui décidez. Il se trouve que cette rencontre est iconique. On y rajoute aussi la visite bouleversante dans la maison de votre enfance et la maison de Serge Gainsbourg, parce que. On sent cette odeur dont vous parlez qui n'a pas changé. On sent que les couleurs, l'ambiance est exactement la même. Et c'est avec le corps d'adulte que vous redécouvrez et la dimension. Parce que plusieurs fois, d'ailleurs, vous réagissez en disant « Mais c'est petit, c'est petit. » C'est pourtant là un endroit que vous connaissez par cœur et tous les recoins, vous les connaissez. Et c'est vrai qu'on s'identifie aussi en se disant « Mais... » Est-ce que
c'est surtout le film et puis c'est surtout le film qu'on regrette de pas avoir tourné, sans doute quand on a perdu ses parents.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Je trouve ça très touchant. C'est vrai que en partant d'une chose égoïste et pour me faire du bien, je réalise que ça, voilà. Après, ça, si ça suit son chemin et que ça m'échappe en fait, tant mieux. Mais j'avais peur. J'avais pas peur d'être impudique. Parce que c'est pas un film qui, c'est pas des révélations qu'on fait sur. J'ai pas appris des choses sur ma mère ou je révèle pas des secrets. C'était juste une d'aller à la recherche presque tactile en fait.
C'est l'affiche du film d'ailleurs.
Oui.
C'est cette rencontre.
C'est un chemin en fait. Et on a eu la chance d'avoir une telle intimité pendant surtout la fin du tournage. C'était pour moi, un moment vraiment magique, et je vois ce que j'ai partagé avec mon père petite. En fait, quand on travaille en famille, et Yvan me l'a bien fait comprendre aussi, il n'y a rien de tel, en fait. Les souvenirs qu'on en a, et justement, c'est à chaque fois des déclarations d'amour plus ou moins pudiques, qui ont une grâce à nos yeux en tout cas.
Et cette proximité, vous l'avez gardée avec Jane? Est-ce que elle disparaît après?
Oui, après on retrouve nos rôles. Oui. C'est normal, et ça veut dire aussi qu'on n'était pas dans le faux pendant toutes ces années. On a nos personnalités, on a notre timidité l'une envers l'autre.
Ça rend le film encore plus précieux en fait, parce que c'est un moment quoi.
Voilà, c'est un moment et c'est un parcours, parce qu'on n'en sort pas pareil. Du coup, j'aime beaucoup la progression et le fait que... Bon, cette scène de fin, je ne savais pas que ce serait la scène de fin, mais j'avais besoin de lui dire
des
choses.
Elle s'imposait, ouais.
Mais justement, je ne peux pas lui dire en face. Là aussi, je lui fais écouter. Il y a un moment où, dans une chanson, elle me dit... une chanson de mon père. Elle me dit « Je t'aime » et j'ai la tête tournée. Ouais. Et puis après, je lui dis « Je t'aime » et elle s'éloigne. Ouais. Et c'est que des moments un peu... étrange, on s'enlace rue de Verneuil, un peu maladroit, on sent que les mains sont pas très à l'aise.
C'est un couple, hein, c'est l'histoire d'un couple en
oui,
fait.
Oui.
Hein, comme un et... jeune couple.
Il y a que, dans tout le film, il n'y a que deux câlins.
Et il y a... Un câlin, c'est le pire mot pour nous. Hein.
C'est vrai?
Ah ouais.
Okay. Hug. Alors je sais pas, il faut dire quoi?
Non, ça non plus.
Accolade.
Non mais.
Accolade.
Non mais avec.
Accolade, ça fait politique, je sais pas pourquoi. Moi, je...
Avec mon père et ma mère, ils ont eu des. Enfin c'est oui, c'est des trucs d'éducation. Mon père plus timide et plus pudique, c'était difficile. Ma mère, c'est pas forcément de la timidité, mais c'est une éducation où c'est presque, c'est un peu dégoûtant d'être
pardon,
trop sentimental.
Mais quand on prend quelqu'un dans ses bras, vous appelez ça comment alors vous?
Non mais moi, j'ai aucun souci de le faire avec mes enfants et c'est mais j'ai pas reçu ça comme éducation avec mes parents donc je peux pas aujourd'hui je
Et pourtant elle avait elle l'explique et d'ailleurs vous avez reproduit ce même geste avec votre fille elle
mais que j'ai pas fait. Parce qu'elle a... je voulais pas toucher, moi. Je voulais juste
on
voir.
Sait, les gens, ceux qui nous écoutent ne savent pas du tout de quoi on parle.
On va pas en parler.
Ok, très bien. Mais en tout cas, ça prouve aussi cette politesse, ce respect aussi de l'intimité d'un enfant, de son corps, de la curiosité, mais presque une curiosité médicale, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
Ouais, et puis il y a le côté, le passage de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, où d'un coup il faut respecter l'intimité.
Ça échappe, ouais.
Voilà, exactement.
Ouais.
Ça s'appelle Jane par Charlotte. D'ailleurs, la question s'est posée de savoir si c'était Jane par ou by Charlotte.
Et ben, pour les Anglais, ce sera by, et puis pour les Français.
Non, mais même partout, ça aurait pu fonctionner. Mais est-ce que la question s'est posée en France aussi de l'appeler by Charlotte?
Non, 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 parce que la question s'est posée de est-ce qu'on va se parler en anglais ou en français? Mais moi, ma langue maternelle, c'est le français. Et avec elle, ça a été le français parce que ça s'est passé comme ça avec mon père, elle apprenait. Et du coup, l'anglais, c'était plus un langage secret, donc je ne l'ai pas utilisé dans ma petite enfance.
Et même ce qui est mignon, c'est quand avec votre fille, vous parlez en anglais, elle répond en français.
Oui, et enfin là, aujourd'hui, c'est un mix bordélique, mais ça nous ressemble. Ouais.
C'est un mix et c'est un luxe de maîtriser aussi bien les deux langues. Je me demande d'ailleurs toujours dans quelle langue vous rêvez. Vous rêvez en anglais ou en français?
Oh non, enfin en même temps, si je passe suffisamment de temps là-bas, enfin en Angleterre ou plutôt aux États-Unis, je peux me mettre...
À rêver en anglais.
À rêver en anglais, peut-être.
Jane par Charlotte, ça sort demain au cinéma. On est ravis de vous accueillir, Charlotte Gainsbourg. C'est pas le cas de tout le monde ici. Il y a de la méchanceté autour de cette table. Voici Morgane Cadignan. Et elle ne vous aime pas.
Non mais Charlotte Gainsbourg, je vous aime pas parce que... Très long, hein, ces applaudissements. Non, Charlotte Gainsbourg, je vous aime pas parce que c'est pas juste, quoi. Vous réalisez un film sur votre mère, Jane Birkin, et le film s'appelle de façon tellement simple mais tellement chic, Jane par Charlotte. Mais pourquoi vous nous faites ça? Vous vous rendez compte, nous, maintenant, à quel point on est ridicule avec les cadeaux qu'on fait à nos darons? Non mais, sans rire, les gars, je suis arrivée à Noël en roue arrière avec un bon d'achat Sephora, j'avais l'impression d'être la déesse de l'abondance, quoi. Buvez dans mes mains, ceci est du Nicolas Feuillatte brut. Et vous réalisez des films... Puis c'est pas camping, hein, le truc. Moi, je l'ai vu et vas-y que c'est bien cadré. Petit soleil d'octobre qui pénètre à travers les persiennes et qu'on se brise la glace dans des draps blancs. Moi, ça va bien, les relations mère-fille élégantes. Franchement, là, on s'aime en pull grosse maille trop grand. Chez moi, on se tolère à peine dans du polyester, quoi. Franchement, Charlotte, on vous avait déjà laissé comptoir des cotonniers. Merde. Dans ma famille, on était du côté des cotonniers, mais version récolte. Laissez-nous le cinéma, bordel. Et puis, votre charme doux, la britannico-française, ça m'énerve. Et cette manière d'avoir des cheveux aussi lisses que votre talent, c'est, moi, un matin sur deux, les amis, un matin sur deux, je me réveille avec des cheveux qui me disent « Ah mais on t'a pas dit, on vient pas en fait ». Donc ce film, la presse est unanime, c'est une déclaration d'amour pudique à votre mère. Ça, attendez, ça voudrait dire que depuis tout ce temps, on peut se dire qu'on s'aime sans se hurler dessus? Eh ben je la prends. Écoutez, il n'y a pas d'âge. Non mais j'ai l'impression que c'est vrai, l'époque fait qu'on a tous un peu de mal à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime en disant simplement « Bah je t'aime ». C'est le cas de ma génération et peut-être qu'à notre âge, on n'a pas fait encore assez d'enterrement. En général, autour du troisième mort, tu commences un petit peu à dire les choses. Écoutez les gens se parler. On peut pas se dire qu'on s'aime sans entourer le bonbon de deux belles tranches de merde. Moi, ça donne un truc du genre, alors t'es insupportable. Un jour sur deux, j'ai envie d'ouvrir ta carotide pour aller voir ce qui s'y passe. Mais en dépit de ce mépris que je ressens pour ton être putride, une force obscure a fait que j'ai un petit peu de mal à me passer de toi sans assistance médicamenteuse. Waouh, Jean-Louis, ce sont les plus beaux vœux de mariage que j'ai jamais entendus de ma vie. Et vous le dites vous-même en interview, Charlotte, on se dit je t'aime à des moments critiques. Je crois que ça arrive à beaucoup de gens. Et oui, mais moi, du du coup, je propose une nouvelle loi. Maintenant, tu dois dire aux gens que tu les aimes dans des moments d'une banalité affligeante, au milieu d'Auchan. Benoît, bah je t'aime, tu sais. C'est important pour moi et ma vie, elle est plus jolie depuis que t'es là. Et le gars te répond, alors c'est juste du surimi, mais si ça te fait plaisir, on va en acheter plus souvent. Mais comme ça, si t'inverses le truc, comme ça, dans les moments critiques, dans les moments vraiment durs, on pourra en profiter pour se balancer les vrais trucs. Mmh. Quitte à passer des moments compliqués, autant fourrer tout le caca la même journée. À l'enterrement d'un de tes parents, tu te penches à l'oreille de ton frère pour lui dire, au fait, t'es quand même vachement auto-centré de manière générale. Et bah ça énerve. Et pendant qu'on est énervé, bah on chiale pas, voilà, j'ouvre mon cabinet de psychologie très bientôt, n'hésitez pas à ne pas prendre rendez-vous et sinon, bah, allez au cinéma à partir de demain voir Jane par Charlotte, allez-y avec votre mère ou avec votre fille et profitez qu'il fasse noir dans la salle pour lui dire que vous l'aimez, elle vous verra pas rougir.
Oh, c'est joli.
Et les 14 et 15 janvier, Morgane, tu seras sur scène à 3.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de « je t'aime » prononcé, articulé, formulé. Je me demande même si le mot est évoqué dans votre documentaire. C'est de la
pub. Si, je dis « ma fille et ses je t'aime » à la fin. Parce que c'est vrai que on a la chance d'avoir une petite fille qui nous le dit toute la journée.
Alors je parlais entre Jane et vous.
Oui, je sais, mais... mais
okay.
Non, mais je le dis à ma mère, à la fin.
Non, mais parce que moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que j'ai trouvé que c'était autant un documentaire, ce que je vous ai dit hors antenne, autant un documentaire sur vous que sur elle.
C'est ce qu'elle m'a dit.
On en apprend autant sur vous que sur elle.
Ouais, c'est là où je me sens. J'ai l'impression de ne pas avoir été honnête parce que je voulais faire un portrait d'elle. C'était vraiment ça mon souhait et qu'elle en soit fière. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai fait aussi le portrait d'une fille qui regarde sa mère. Et d'une fille qui veut se rapprocher de sa mère et qui...
Mais déjà, en décidant, vous êtes réalisatrice, donc en décidant d'être dans le cadre, c'est...
Mais j'ai pas, en fait, avec ce film, j'ai rien décidé. Tout est plutôt très spontané. Les erreurs sont bienvenues. Enfin, justement, tous les accidents sont bienvenus. C'est filmé un peu... Il y a tout et n'importe quoi. C'est bien filmé par un super chef-op que j'adore et qui m'a suivi sur plein de lieux. Et puis c'est aussi filmé, moi, mal.
À la GoPro.
Avec une caméra achetée sur le tard et.
Oui, puis avec même
mal cadré.
Mal cadré. Je me demandais d'ailleurs si c'était mal cadré ou si c'était volontaire d'avoir cette espèce de cadre dans lequel on rentre et on sort et où la caméra finalement ne suit pas vraiment.
Non, c'est plutôt
la vie.
C'est moi qui lui parle et donc la caméra se baisse et
c'est
filme ses pieds. Oui.
C'est ouf. Y compris le changement de point.
Alors non, dans le train, ça c'est une erreur, c'est que je savais pas régler ma caméra.
Mais vous rendez compte
ma monteuse. Ça a été très compliqué.
En fait, Morgane, le problème, c'est quand t'es Charlotte Gainsbourg, toutes les boulettes que tu fais deviennent un truc
oui,
de génie.
C'est clair, c'est élégant tout de suite.
Et puis, il y a des photos aussi, et ça, c'est pas anodin, en fait, de vous voir dans cette position, de prendre des photos.
On a commencé au
Japon. Et de se prendre en photo aussi, c'est-à-dire que vous êtes face à un miroir par moment aussi.
Mais ça a commencé au Japon, où ma sœur Kate était très présente. Parce que je voulais parler d'elle, elle adorait le Japon aussi, donc c'était une manière aussi de la rendre présente à cet endroit. Et du coup, quand je photographie ma mère, je sais très bien qu'on pense toutes les deux à ma sœur qui était photographe. Du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu provoquer. Je pense pas que ça ait poser un problème à ma mère parce qu'elle est plutôt très à l'aise en photo, ça, elle le dit d'ailleurs,
ouais.
C'est un truc qu'elle aime beaucoup. Moi, j'étais mal à l'aise, donc c'était un vrai challenge, mais je voulais que ma sœur soit présente à tous ces moments. Dans le lit, on est dans un lit à un moment, ça me rappelait une photo que Kate avait faite de moi, où je suis dans un lit avec une clope. Et du coup, je l'ai mis aussi dans des films d'archives parce que je voulais la voir, je voulais nous voir aussi enfants, je voulais que mon père existe aussi.
Le moment est très difficile.
C'est dur et c'est là où je pense que c'est ma limite. Enfin, je me le suis autorisée quand même, mais je suis allée un peu trop loin. Et j'ai pas voulu provoquer des larmes faciles chez ma mère ou la surtout pas la faire souffrir. Mais là, ce moment, je vois que c'est la limite. Et elle dit qu'elle peut pas. Et le moment que je prends pour baisser la caméra est un peu... Je m'en veux un peu.
Mais vous dites aussi quelque chose d'essentiel, c'est que finalement, on parle davantage de ceux qui ne sont plus là,
oui,
et qu'on leur réserve une place tellement importante peut-être dans notre vie qu'on en arrive à oublier ceux qui sont encore là.
Mais si j'ai eu une surprise aujourd'hui, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que j'ai pu apprendre, j'ai appris que ma mère ne savait pas à quel point elle comptait pour moi, parce que elle a toujours cru qu'il n'y en avait que pour mon père. Ce qui est normal, et oui, elle le dit, quand on perd quelqu'un, on le met sur un piédestal et, et le manque est tellement fort qu'on le fait exister. Donc ma vie s'est beaucoup tournée autour de mon père et elle avait pas... Enfin, moi, j'ai pas su lui faire comprendre à quel point j'avais besoin d'elle, à quel point je l'aimais et l'importance qu'elle avait.
Et ça marche dans l'autre sens aussi, depuis la disparition de Kate aussi?
Ça marche, oui. Après, avec quand même cette culpabilité que je peux avoir d'être partie et de m'être enfuie aux États-Unis pour ma survie à moi, alors que ma mère allait si mal. Et oui, Kate venait de mourir. Donc ça aussi, c'est un poids.
Comme l'a si bien dit Morgane tout à l'heure, allez voir Jane par Charlotte avec votre fille ou avec votre maman, et c'est vrai que ça donne qu'une envie, et c'est peut-être finalement le plus beau compliment qu'on puisse faire à votre film. Ça donne qu'une envie, c'est de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et peut-être de faire son mini film personnel sur sa maman, son papa ou un être cher, en se disant ça.
Des images qu'on aimerait
ça
voir
reste...
plus tard, ouais.
Ça,
entendre
ça.
La voix, les voir bouger. Alors c'est avec vous, Jane, voilà, elle existe sur un écran depuis longtemps et elle est médiatique, mais c'est vrai que pour les gens qui n'ont peut-être pas ce rapport-là aux images intimes, c'est beau aussi.
Oui, mais c'est assez terrifiant de vivre avec l'idée qu'on filme pour après. Et c'était difficile pour moi de le prononcer, de faire que elle en soit consciente aussi. C'est même aujourd'hui, ça me paraît très très délicat comme sujet à aborder. Mais je voulais parler un peu.
Mais le texte que vous dites à la fin, il est juste formidable, ce texte.
Et j'allais pas bien en fait, et donc j'avais pas beaucoup de filtres quand on est. Enfin, c'était.
Vous
un
étiez
moment,
à vif. Ouais.
Oui, je crois que j'étais même ailleurs, quoi. J'avais accusé le coup d'un retour en France un peu précipité. Et du coup, le fait de pas aller très bien, déjà, ça a fait un rapport entre nous qui était qu'elle m'a vraiment tenu la main. Et elle m'a donné tellement de temps, de tout accepter, d'accepter toutes les questions. Elle avait compris que le chemin, justement, entre le Japon et ce moment-là, 4 ans plus tard, enfin 2 ans plus tard, mais je lui voulais du bien. Et du coup, elle était, elle m'a aidée, elle m'a aidée pendant toute cette partie de tournage. Et ce texte, je l'ai écrit très spontanément avec. L'idée d'aller à l'essentiel, comme on peut avoir quand on va passer très bien.
Jane par Charlotte, c'est au cinéma et c'est demain. Il va pas très bien non plus, tout le temps. C'est Paul Mirabel, le voici. Et ça va aller, Paul.
Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Morgane, bonjour tout le monde. Ça va, tout le monde va bien
aujourd'hui? Très bien. Et toi?
Bah écoutez, moi aussi, ça va. Et bien avant toute chose, d'ailleurs, bonne année. Oui, et bonne Toussaint aussi, puisque j'avais oublié de vous la souhaiter l'année dernière, donc j'en profite pour faire ma coupe. J'étais malheureusement absent la semaine dernière, oui. Et face à cette réaction spontanée, je vois que je vous ai énormément manqué. Non, j'étais absent pour une raison purement professionnelle, qui est que j'étais en vacances en Suède. Oui, pourquoi partir à Dubaï quand on peut partir dans un pays dans lequel il fait moins 13 degrés au soleil? Très beau pays d'ailleurs, si tu enlèves le fait que je n'ai plus aucune sensibilité du bout des doigts. Je devais pas partir en Suède en plus à la base, puisque pour moi c'est pas un pays dans lequel tu pars en vacances. Normalement c'est un pays contre lequel tu tombes en face de poule à l'euro. En théorie, la seule fois de l'année où tu utilises utilises le mot Suède, c'est pour dire, t'as vu, Giroud a mis un triplé contre la Suède. Et en plus, tu le dis pas souvent, parce que Giroud ne met pas de triplé.
Et puis, il joue plus.
Oui, je me suis pas vraiment senti dépaysé là-bas, par contre, puisque je n'ai croisé que des grands blonds tout pâles. Oui, ça m'a fait très bizarre de retourner vivre parmi mes semblables. C'est la première fois que je me croisais dans la rue, d'ailleurs. Vraiment quelqu'un de très gentil. Une fois, je me trouvais même désirable dans un miroir. En fait, c'était juste un Suédois qui me fixait derrière une vitrine. Pour m'intégrer là-bas, j'ai aussi essayé de parler le Suédois.
Ah.
Oui, alors on dit que dans certains pays, il faut se confronter à la barrière de la langue. Là, en Suède, c'est pas une barrière qu'ils ont, c'est carrément un péage. Moi, j'ai essayé de passer, ils m'ont dit de faire demi-tour. En fait, il y a des mots très longs en Suédois. Moi, j'ai vu quelqu'un commencer un mot le matin et le terminer quand il faisait nuit, c'est-à-dire vers 14h30. D'ailleurs, en étant là-bas, j'ai pris conscience de quelque chose dont je souhaiterais vous faire part, c'est que dans la vie, peu importe ton origine, tu es forcément un jour ou l'autre le touriste de quelqu'un. Oui. Moi, je pensais que j'étais un citoyen du monde et que j'allais m'affranchir des frontières. En fait, pas du tout. Je suis juste un Français qui s'est fait avoir à l'étranger comme tout le monde. Et j'aurais dû me douter que 900 euros pour faire 4 minutes de taxi, c'était peut-être un peu excessif. En plus, quand tu pars à l'étranger, tu idéalises forcément toujours un peu le voyage, je trouve. Moi, je pensais qu'en arrivant là-bas, j'allais tomber amoureux d'une Suédoise, acheter un chalet à la montagne et pêcher des saumons au bord d'un lac. Puis dans quelques années, j'aurais eu deux enfants, Hectorp et Hecturp, qui seraient à la fois leur prénom, mais également le modèle des deux tabourets IKEA installés dans mon salon. En fait, non. En fait, j'ai découvert que globalement, en Europe, tout ce que tu penses pouvoir trouver uniquement à l'étranger, tu peux aussi le trouver au centre commercial Rony 2. Mais heureusement, j'ai quand même réussi à acheter plein de souvenirs authentiques et locaux de la Suède. J'ai acheté un pull chez H&M, un maillot de l'équipe de France chez Adidas et un agenda I Love Paris à la Fnac. Donc je suis vraiment content de m'être dépaysé, d'avoir acheté des produits typiquement suédois pour soutenir l'économie locale. Par contre, ils sont plus évolués que nous sur certains sujets là-bas, puisque sur les passages piétons, ce ne sont pas uniquement des petits bonhommes rouges, mais aussi des femmes. Que tu vois. Moi, au début, j'avais pas compris. Je pensais que c'était juste les femmes qui avaient le droit de traverser. Du coup, je suis resté 8 heures sur un passage piéton. Puis j'ai vu un grand blond traverser. Je me suis dit, allez, Paul, celui était semblable. Et enfin, je sais pas si vous le saviez, mais en Suède, il y a la cathédrale de Storkyrkan. C'est une cathédrale sur laquelle une première église a été érigée au XIIIe siècle. Puis en 1306, l'église a été remplacée par la grande basilique de Sankt-Nikolaj. Et c'est une église protestante luthérienne depuis 1527, siège du diocèse de Stockholm, dans laquelle les rois de Suède ont été couronnés jusqu'en 1907.
Et alors,
voilà, alors vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais c'est qu'en fait, j'ai fait des musées là-bas et je savais pas trop dans quel contexte replacer ce que j'ai appris dans l'audio guide. Du coup, voilà. Et comme ça m'a coûté 900 euros pour 4 minutes, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle à un moment donné. Ouais, je crois que je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille m'occuper de Hector et Hecturp avant qu'il prenne froid au bord du lac. Donc, vive la Suède et merci tout le monde de m'avoir écouté.
Merci, Paul Marley. Jane par Charlotte, ce film, vous le qualifieriez d'un film mère-fille, tout simplement, ou quelque chose de plus large, plus familial, parce qu'au générique de fin, tous les membres de la famille sont présents et remerciés.
En fait, au départ, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus large. Je voulais parler de sa famille en Angleterre, je voulais filmer Lou, je voulais faire un Noël en famille. Enfin, je me suis dit, il faut, si je fais un portrait d'elle,
élargir.
Il faut qu'il y ait tout. Mmh. Et puis...
Et Lou a refusé.
Oui, elle a refusé, mais très gentiment, juste en disant, je pense que je n'ai pas ma place dedans. Et après, il y a eu le Covid qui fait que ça a tout resserré de toute façon. Il n'était plus question d'aller en Angleterre. Et je pense que j'ai trouvé le sujet du film sur le tard, en fait. Et en comprenant que j'allais être, il y aura qu'elle et moi.
Vous avez lu le livre de Jane, son journal ?
J'ai lu seulement la première partie. Jusqu'à la rupture avec mon père. J'ai pas lu la deuxième partie.
Pourquoi ?
Bon, pour...
On veut pas tout savoir de sa mère ?
J'ai jamais lu une biographie de mon père. Je suis pas sûre de... J'adore la drôlerie de ma mère, donc bien sûr de la lire... Voilà, mais pour moi, les années joyeuses, c'était celle-là aussi...
Non, parce que Lou a refusé, par exemple, de lire le volume 1 ou le volume 2 du journal. Elle n'a pas voulu.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que ma mère nous a donné le manuscrit, c'était une espèce de bible, enfin...
Épaisse.
Un manuel très très lourd. Donc moi, j'ai attendu qu'il sorte. Et c'est en faisant le film que j'ai voulu quand même... parfois, elle m'envoyait des passages qui me touchaient vachement sur mon père, sur... je sais pas, des choses personnelles. Et donc j'ai eu envie de, en plus de connaître son écriture, Donc ça m'a beaucoup amusée de lire le premier.
Si Qu'est-ce qui vous touche le plus de lire quelque chose que vous ne saviez pas ou de lire quelque chose qui était indicible ou impudique à dire jusqu'à ce moment-là?
Qu'est-ce qui me plaît le plus?
Vous touche le plus?
C'est ces mots, je pense que c'est aussi ça. Elle a une grâce qui est c'est un peu difficile de l'expliquer justement parce que la grâce, le charme, c'est des choses, c'est ça qui me touche chez elle. C'est peut-être ce qu'elle maîtrise pas, ce qu'elle contrôle
oui,
pas.
Il y a naturel qui est incroyablement
oui.
Qui est bouleversant.
Elle le connaît
son naturel, elle le maîtrise.
Elle le maîtrise son naturel.
Mais il est déstabilisant son naturel.
Oui.
Totalement.
Mais je voulais en fait aussi que mon père ne la vampirise pas dans le film. Donc je voulais pas le faire apparaître trop. Je voulais pas que ce soit justement qu'il y ait des musiques de lui. Forcément.
Alors vous le dites dans le film vidéo, non surtout pas, parce qu'il y a une question qui est posée sur quelle musique on pourrait mettre avant d'arriver à Bach, si j'ai bonne mémoire.
Ah non, elle me dit
un morceau de musique de votre chanson.
Ouais. Ouais. Non, ça c'était pas possible.
Et puis c'est aussi l'histoire d'une femme qui est âgée, c'est le rapport d'une femme qui a été une icône, qui vieillit et qui en parle clairement avec sa fille des effets de l'âge sur son visage, sur sa ligne.
Les
genoux d'éléphant sur le poids aussi. C'est des contingences très très courantes en fait.
Concrètes.
Des sujets très communs.
Oui, mais c'est pour ça. À ce moment-là du tournage, elle acceptait de parler absolument de tout avec justement un naturel une drôlerie et voilà son originalité à elle, le fait qu'elle soit si bordélique, qu'elle garde tout. Enfin, elle.
Tellement drôle ça.
Mais mes deux parents, en fait, mon père collectionnait des choses de manière très maniaque et un bordel organisé.
Il y a une nuance entre collectionner des choses et garder un barbecue qui ne fonctionne plus
c'est ça.
À trois roues.
Et en faire un décor, en fait. Elle a toujours eu l'esthétisme pour elle, c'est très très important. Justement, ce bordel, il est quand même... étudier et
elle vous souhaite du courage d'ailleurs la phrase est violente parce qu'elle évoque le moment où elle ne sera plus là et à la fois elle est drôle avec le tu sais quoi je te souhaite du courage pour trier toutes les affaires quand je serai plus là et d'un coup là on sait plus si on doit rire ou pleurer à ce moment là tellement c'est touchant
en fait j'ai eu la chance de pouvoir me laisser aller aussi au tournage grâce à une monteuse qui comprenait aussi toutes les pépites que ma mère donnait et tous les moments justement gracieux et elle a su mettre l'accent là-dessus.
C'est Tianès Montassé, c'est ça?
Oui. Et j'ai été entourée de personnes qui m'ont permis d'être spontanée et d'être un peu d'y aller un peu à l'aveugle. Parce que tout était très organisé autour de moi. Etienne S faisait un choix d'une grande intelligence justement dans son montage et on sentait qu'elle aimait tellement ma mère aussi. C'était vachement touchant de voir que quelqu'un d'autre comprenait le film en même temps que moi et même peut-être avant moi.
La musique, on va parler d'ailleurs des rapports mère-fille dans quelques instants avec Patricia Delahaye qui sera notre invitée. La musique dans la vie de Charlotte Gainsbourg, on se demande, c'est pas un pléonasme d'ailleurs quand on fait ce genre de phrase, mais qu'est-ce que vous écoutiez en 86 ? Tina Turner, 86, River Deep London High, on se dit, il n'y a qu'une solution, c'est de mettre très très fort dans la chambre et danser et avoir les cheveux dans le visage et un lâcher prise. C'était le cas ou...
C'était pour moi le début des Walkman. À 13 ans, je faisais des voyages, j'étais en pension en Suisse et je me souviens des voyages en train où justement, avec cette voix dans les oreilles très fort.
Ah oui, mais là, on peut pas se lever, danser, bouger, et le lâcher prise n'est pas total.
Non, mais l'esprit partait loin, loin, loin.
C'est, elle a une voix qui prend au trip, ouais, ah ouais. Tina Turner, clairement.
On est en 86, vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle dans L'Effronté. Votre père vous dit avant la cérémonie, si tu ne l'as pas, ne pleure pas.
Je trouve ça très drôle. Parce que c'est vrai que j'aurais pu réagir comme un enfant, quoi. Déçue, je pleure.
Je trouve que le conseil est trop mignon. Ne pleure pas, surtout si tu ne l'as pas.
C'était l'inverse, elle a eu à pleurer.
Et,
ben,
voilà. Et vous dites justement, vous étiez très jeune, ça devait être aussi être propulsé dans ce monde-là d'adulte, d'avoir les micros tendus pour l'actrice que vous étiez, pour la fille aussi d'eux que vous étiez. Tout d'un coup, c'est très éprouvant ça quand on est si jeune.
Oui, mais en même temps, je pense que j'ai été très 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 bien protégée. J'ai pu faire des films sans être agressée par une promo délirante. Du coup, en plus, j'étais très timide et je faisais aucun effort.
Ce qui fait que dans L'Effronté, vous étiez impliqué, vous avez mis.
Ah non, là je parle que de la promo.
D'accord, ouais. Pardon.
Non, non, les tournages, j'adorais ça.
Non, mais vous avez apporté beaucoup de vous dans le rôle, dans le personnage.
J'imagine, après oui. J'avais aucune conscience de ce que je faisais. Pour L'Effronté, en tout cas, c'était un jeu. Et c'était une. J'étais plus intéressée par Bruno, qui était assistant et qui me préparait un sandwich aux tablettes de chocolat. que vraiment par le travail que j'avais à faire. Donc c'était très insouciant et très joyeux. Après justement la promo c'était pas joyeux et c'était un calvaire pour moi, mais comment, ma mère l'a compris.
Voilà ce que j'allais dire, comment une maman se comportait à ce moment-là? Est-ce qu'elle vous accompagnait beaucoup?
Non, elle m'accompagnait pas, mais elle m'a défendue. Il y avait Dominique Segal qui était attaché de presse. À cette époque-là, qui avait aussi compris que je pouvais pas. Voilà, je m'étais très mal à l'aise des journalistes, d'abord. Et quand j'ai compris ça, j'en ai un peu abusé.
C'est la sale gosse, ce qui est génial.
Je faisais des couvertures, je faisais des photos, je faisais la gueule, mais aucune envie de sourire. Mais parce que, aussi, mon père m'avait donné quelques principes. C'est-à-dire qu'il fallait que je mette mes mains d'une certaine manière dans mes poches, il fallait pas regarder l'objectif. Qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Ah oui, il m'avait aussi dit, mais ça c'était pour les tournages, il m'a dit, si l'ingénieur du son te dit de parler plus fort, t'obéis pas, tu parles... Enfin voilà, si tu parles fort, tu vas parler faux.
Tu vas être faux.
Ouais, oui. Tu vas jouer faux. Ouais.
Il m'a donné pas mal de conseils.
Et des bons. En 94, vous écoutiez... Vous voyez, je verrais plus cette musique dans un train, justement, comme dans un road movie. Cette musique.
Plus... Ben, c'est un road movie, c'est Yvan et moi. Ouais. Et c'est le début où il me fait connaître ça et John Mayall. Du coup, c'est vrai qu'on l'a écouté à longueur de journée.
On est en 94, oui, absolument.
Alors, s'il y a bien un endroit où il faut parler fort, c'est le théâtre. On est en 94. Et la pièce de David Mamet, Oléana. Avec Maurice Benichou.
Oui.
Donc ça, c'est aussi, il faut sortir de soi.
J'ai beaucoup appris. J'ai eu très peur, mais
eux aussi ont eu peur.
Ils étaient terrifiés. Parce que je pense que jusque la semaine avant la représentation, ça s'était toujours pas débloqué. Donc j'étais complètement empêtrée. Et puis d'un seul coup, mais vraiment Maurice Benichou. J'ai tellement appris grâce à lui parce qu'il m'a... Moi qui n'ai pas fait d'école de théâtre, lui, il avait l'apprentissage de Brooke. Ce qui fait qu'il me faisait faire des exercices qui étaient... c'était génial. Les moments des répétitions, ça a été vraiment magique. Après, les premières représentations, c'était un challenge et c'était éprouvant mais génial. Puis après, je me suis fait chier en fait.
Par la répétition, le retour sans cesse de
bah, ce... J'étais trop jeune, peut-être je m'amusais pas. Aussi parce que Maurice était acteur, il était metteur en scène et acteur, ce qui fait qu'à chaque sortie de scène, il me donnait des notes. Ouais. Après, Yvan m'a dit, il a fait du théâtre plus tard, Et c'est ce qui est génial au théâtre, c'est la liberté qu'on prend comme acteur, justement, à pas avoir de metteur en scène derrière soi.
Quand vous dites j'étais pétrifié et finalement cette peur, vous la transmettez aux autres, c'est une manière justement de d'aller mieux, de se décharger, de la partager.
Non,
cette
c'est
peur.
Que je pense que je suis à l'aise avec le silence. Donc, et le silence met mal à l'aise les gens. Et mais je vais pas à la rescousse. Et je reste parce que c'est peut-être ce qui me rassure aussi. Et j'ai pas. Enfin, après mon rapport aux gens, c'est pas. Il est pas tablé là-dessus en permanence.
Et pour en revenir à Yvan, il y a une vanne formidable dans le doc sur le film. Elle est formidable.
C'est pas sympa.
Elle est formidable cette vanne. Avec le silence justement, mais elle est formidable.
Oui.
On va passer en 2003 où vous écoutiez Bob Dylan.
Et on vous retrouve marié à Sean Penn, en tout cas vous incarnez le personnage de la femme de Sean Penn dans 21 grammes.
Oui, en fait Dylan il m'a accompagnée longtemps hein, et c'est le premier titre que mon père m'a conseillé d'acheter de tous les artistes, c'était Dylan et c'était Lay Lay Delay.
Ouais.
Donc je peux l'écouter tout le temps en fait. Mais
sans que ça corresponde à une période précise, vous
voulez
dire.
Voilà, j'ai choisi ça parce que c'est vrai que je voulais le placer quelque part.
Il fallait qu'un Dylan.
Mais 21 grammes, c'est un grand souvenir. Grand souvenir.
Mais pardon, Dylan aussi, c'est un taiseux. Dylan aussi, en interview dans les rapports avec la presse, se comporte comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Joue avec les silences, joue avec cette espèce de malaise qui déstabilise.
Oui, après je me compare pas à Dylan.
On peut avoir des points communs de caractère sans forcément se comparer.
Ouais. Non, mais
et pour en revenir à Sean Penn et à 21 grammes, c'est un bon souvenir.
Sean Penn, c'était, oui, j'ai vu un grand acteur.
C'est quoi la différence entre un grand et un plus petit acteur?
C'est qu'il était habité. Alors, ça peut paraître prétentieux aussi, si c'est raté, c'est prétentieux. Mmh. Mais avec lui, il a un génie qui fait que c'était pas prétentieux, c'était juste tellement hallucinant d'en être témoin. C'était assez impressionnant et assez intimidant. Mais je sais pas si j'ai compris des choses grâce à lui, mais en tout cas c'était un voyage dément.
Sean Penn qu'il faut voir dans Licorice Pizza en ce moment au cinéma, je dis ça.
Ah d'accord.
Voilà. Pour se faire un petit plaisir.
Qui est sorti la semaine dernière, je crois.
Voilà.
Hein, c'est ça. Licorice Pizza, une pizza aux réglisses, qu'est-ce que c'est?
C'est un vinyle.
Ah, c'est ça la définition, c'est le vinyle.
Ça renvoie au vinyle.
D'accord, très bien. Patricia Delahaye, merci d'être présente à ce micro. Vous êtes psychosociologue de formation spécialisée dans la problématique du couple et vous avez écrit la relation mère-fille, les trois clés de l'apaisement. Ça, c'est, au moins c'est clair, il faut apaiser ça.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup interrogé des mères et des filles et je savais pas tellement quel angle j'allais donner à ce livre. Et j'en suis arrivée à la conclusion que oui, en effet, il y avait beaucoup de culpabilité d'un côté et de l'autre. Et que ça avait besoin d'être apaisé, la relation
qu'est-ce
mère-fille.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un rapport mère-fille et un rapport père-fils? Est-ce que c'est simplement, il y a une image plus forte, plus iconique, quelle que soit la mère, quelle que soit la fille, ou un conflit qui peut se poindre quelque
c'est
part?
C'est-à-dire que la fille vient de la mère, mais elle regarde aussi la mère pour grandir. Elle se voit en miroir dans la mère, en fait.
En miroir ou en concurrente? Ou la mère regarde la fille en concurrente ou
Bon, d'abord, c'est très difficile de généraliser parce qu'on risque de se tromper, évidemment.
Bien sûr.
Mais le lien est plus direct entre mère et fille qu'entre
entre fille et père.
Qu'entre fille et père, évidemment.
Ou entre fils et père. Parce que
ou
moi,
entre
je voulais
fils
savoir,
et père.
C'est ça. Alors, quelle est la nuance? Est-ce qu'il y a de la jalousie parce que c'est le même sexe, fils-père, mère-fille, on dit, il peut y avoir une espèce de jalousie qui s'installe ou on recrée des schémas et on commet finalement des erreurs? Mais ça, tous les parents commettent des erreurs.
Oui, tous les parents commettent des erreurs, mais je ne sais pas. Il faut distinguer, en fait, Il peut y avoir des pointes de jalousie dans la relation mère-fille, parce que c'est une relation humaine, donc imparfaite. Mais la question à se poser, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est 30 secondes, par-ci, par-là? Ou bien est-ce que c'est vraiment une jalousie qui a envie de détruire, qui a envie de faire du mal? Parce qu'évidemment, il y a des mères toxiques aussi.
Et puis, il y a des filles qui admirent leur mère, qui considèrent leur mère comme un modèle. C'est souvent le cas? C'est naturel pour une fille.
En fait, une fille regarde sa mère pour grandir. C'est un peu son modèle ou parfois son anti-modèle. Et elle la regarde toute la vie. Enfin, même plus tard, on le voit bien. D'ailleurs, dans votre documentaire, comment je vais vieillir? Comment vieillis-tu? Enfin, vous voyez, il y a une espèce de perméabilité entre les deux. Donc, mais ça peut être un anti-modèle très puissant et très positif aussi. Hein.
Vous avez trouvé ce documentaire très fidèle à ce que vous rencontrez souvent dans les rapports mère-fille?
Oh, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est l'authenticité toujours de Charlotte et de Jane. C'est magnifique. Et puis, en effet, ce que j'ai trouvé beau, c'est à la fois l'envie de se rencontrer et la peur de se rencontrer. Parce que une relation mère-fille est une relation très poreuse. On est comme des éponges. On a peur notamment de quand une mère souffre, une fille souffre aussi.
Oui, bien sûr.
Et on s'en protège. Et parfois, il y a un moment où vous chantez en duo, par exemple, et on voit que Jane est très émue. Elle regarde sa fille et vous n'osez pas la regarder comme si vous aviez peur qu'il y ait une contagion.
Non, c'est pire. Il y a même un moment où elle s'évite du regard et où elles sont dirigées en disant non, mais ne vous éloignez pas, regardez-vous pas.
Il y a une espèce de contagion de la souffrance et le fait que vous partiez, par exemple, quand Kate s'en va, disparaît, c'est la fille a besoin de se protéger de la souffrance de la mère. Et donc, il y a beaucoup de culpabilité. Alors, la mère se culpabilise parce qu'elle n'a pas fait, elle aurait dû, elle aurait pu. Enfin, bon, on connaît bien ça. Et puis, la fille se culpabilise parce qu'elle n'est pas toujours là pour tenir la main de sa mère quand ça ne va pas, parce que ce n'est pas son rôle. Elle a à construire sa vie.
Si on parle souvent de rapports œdipiens entre une fille et son père ou entre un fils et sa mère, comment qualifier les rapports mère-fille?
Je pense que c'est une relation hypersensible, souvent épidermique, et c'est aussi une magnifique relation, parce que l'amour entre une mère et une fille, ça va, ça vient, mais ça revient toujours. Et ça, c'est superbe.
Phrase qui est dite d'ailleurs dans le documentaire.
C'est ce que dit ma mère, elle me dit « t'inquiète pas, avec les filles, elles reviennent toujours ». Je trouve
c'est
ça
joli.
C'est beau.
Ouais, c'est joli. Et si vous aviez un conseil, encore une fois, on a commencé, on a dit tout à l'heure qu'on commettait tous des erreurs, mais y a-t-il un conseil à donner?
Je pense que le principal conseil, c'est de se pardonner à soi-même. Se pardonner quand on est la mère, parce qu'on a forcément loupé des moments, pas vu, pas su, pas bien fait. Évidemment, si on pouvait, on reviendrait en arrière avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, de soi et de sa fille et de la vie. Et puis dire à la fille de se pardonner à elle aussi, parce qu'elle a principalement à construire sa vie. Mmh. Elle n'est pas là pour tenir la main de sa maman. Elle est là pour grandir, évoluer, construire sa vie.
La laisser partir.
Et ses amours. Moi, j'aime beaucoup le terme de Charlotte qui est de s'affranchir. Mmh. S'affranchir de sa mère. Voilà. Il y a des moments où on a besoin de s'affranchir de sa mère. Et c'est le mouvement de la vie. Voilà, donc se pardonner.
Et de l'éducation, on rappelle quand même l'étymologie de éducation, c'est conduire vers l'extérieur,
c'est élever.
C'est ça, ex du carré, c'est tu sais quoi, je vais t'éduquer, mais tu te casses. Ouais, c'est aussi ça, mais elles reviennent toujours. C'est ce qui est rassurant. Patricia Delahaye, merci. Je rappelle que vous avez été édité chez Le Duc et réédité en livre de poche, La relation mère-fille, les trois clés de l'apaisement, mais vous êtes également romancière, avec notamment La Faussaire, un livre qui sortira en février prochain, toujours signé Patricia Delahaye. Merci d'être venue
beaucoup
à ce micro. De quoi vas-tu parler, Tanguy ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la campagne présidentielle. Figurez-vous que c'est dans 3 mois et personne n'est prêt, Nagui.
Mirabel, Alexandre Cominec, Tanguy Pastureau et notre invitée Charlotte Gainsbourg. Avec ce Jane par Charlotte, ce film sur ce rapport mère-fille, mais aussi sur toute une famille avec laquelle on a grandi, et ça, vous n'y pouvez rien, on a le sentiment, même si on est des cousins très lointains, de faire partie de la famille, parce que les musiques, les films, les événements qui ont émaillé, les deuils, on a tous pleuré le départ, que ce soit de Kate plus récemment ou de Serge, parce que vous nous touchez. Alors là où vous nous touchez encore plus, c'est quand on voit une famille entre guillemets normale, c'est-à-dire voilà, on se parle pas, tu m'avais jamais dit, si je t'ai dit, mais ah bon, t'as fait ci, ah bon, t'as fait ça. C'est ça qui est formidable. Votre souhait, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, d'élargir un peu plus ce documentaire autour de la famille de Jane, vous êtes posé la question aussi autour de votre propre famille. Et ils sont évoqués, hein, que ce soit votre fille Alice, que ce soit Yvan Attal, mais on ne les voit pas, ils ne sont pas présents.
J'ai vite compris que c'était une histoire de fille quand même.
D'accord.
Ouais.
À ce point ?
Oui. Et je trouvais ça, oui, parce que ça a une importance pour nous. Ma mère a eu 3 filles aussi, donc c'est vrai que c'est... Elle trouve ça... Enfin, je sais que pour elle, ça a un intérêt... De parler des filles.
Alors c'est sur les filles, je comprends totalement votre axe et votre volonté, la manière dont vous le percevez, c'est sur la communication aussi entre enfants et parents.
Ou manque de communication,
oui. Avec cette nuance supplémentaire dans votre famille en particulier, vous n'êtes que des artistes, pratiquement, à tous les niveaux, à une sensibilité, que ce soit dans la photo, dans le cinéma, dans la musique, dans la réalisation, dans l'acting. Ce ne sont que des artistes. Alors, est-ce que, déjà, être artiste, il faut être un tout petit peu décalé
Oui, mais alors moi, on m'a tout de suite dit, il ne faut pas s'y croire et il ne faut pas te dire artiste. J'avais un grand-père qui disait...
Qui peignait ?
Me, I too am an artist. Mais avec beaucoup d'ironie et justement pour pas... On m'a très vite fait comprendre qu'il fallait pas avoir une grosse tête, qu'il fallait... Et donc le côté artiste, c'est un mot un peu à bannir.
Alors, pour aller plus loin, c'est pas toutes les filles qui peuvent avoir une bio ou une autobiographie de leur maman à lire ou à ne pas lire, pour
c'est
évoquer
vrai.
Ce que Lou ou vous avez évoqué. Ben Attal, à ce micro, nous disait ne pas regarder les films dans lesquels vous jouiez par justement.
Surtout Lars von Trier, en fait.
Oui.
Ah ouais.
Bizarrement, voilà.
Pourtant, ça pourrait aussi l'éduquer. Mais non, qu'il n'en voulait pas. Et évidemment, avec l'humour d'Yvan Attal derrière, ça donnait un moment extrêmement drôle à ce micro il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que vos vies sont exposées même si vous ne le voulez pas et sont même interprétées. Parce qu'il y a toujours un journaliste qui vient écrire quelque chose qui n'est pas forcément la vérité.
Mais moi, j'ai beaucoup écouté mes parents. Beaucoup, beaucoup. C'est vrai que quand j'étais... enfant puis adolescente, on vivait avec les musiques de mon père, les films de ma mère, on allait les voir. Tout était quand même assez célébré. Yvan et moi, on a fait un choix qui était... Enfin, je ne sais pas si c'était un choix d'ailleurs, mais on ne parlait pas trop. On les emmenait sur nos plateaux, évidemment, mais une fois que les films sortaient, on n'en faisait pas tout un plat.
S'ils veulent, ils regardent. S'ils ne veulent pas, ils
même,
regardent pas.
C'était plutôt... On n'en parle pas trop.
Est-ce que ce film, cet échange avec Jane Birkin, cette plongée finalement dans vos sentiments, et en augmentant la communication qui était peut-être laissée de côté, vous a changé, vous, en tant que mère vis-à-vis de vos filles ou de vos fils d'ailleurs ?
Oui, bien sûr, ça m'a influencé forcément, mais pas de faire le film. Le film, je voulais vraiment, par contre, que mes enfants le voient, parce que ça me touchait qu'ils voient leur grand-mère, ils la connaissent, mais qu'ils voient justement la magie de cette femme. C'est parce que c'est leur grand-mère et donc ils la voient comme une grand-mère, mais
qu'est-ce
c'est
vous
aussi
ont dit
une femme démente. Ils m'ont rien dit, j'ai juste vu qu'ils étaient très émus.
Touchés, ouais.
Oui, parce que c'était à Cannes en plus, donc il y avait un côté là pour le coup très cérémonial.
Et puis on n'était pas dans l'intimité non plus, quoi. C'est-à-dire
non.
qu'ils sont dans une salle et observés par les voisins.
Oui, après j'étais très fière de, enfin moi qui je les ai pas beaucoup mis en avant, mais là de les voir monter les marches tous les trois, c'était, ça voulait vraiment dire quelque chose.
Jane par Charlotte, c'est au cinéma et c'est demain. Voici Tanguy Pastureau. On va surtout ouvrir un micro, ça sera beaucoup mieux. Si ce micro fonctionne ou pas, d'ailleurs.
Ah, voilà.
Là, ça marche mieux tout de suite.
Je propose de relancer, monsieur Tanguy.
Allez, c'est parti.
Allez. L'équipe était tellement bien.
Voilà, il reste 102 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle et personne n'est prêt. Hein, je pense qu'il va falloir faire comme avec les spectacles, envisager un report. Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. Bon, je le comprends. Sur 5 ans de mandat, il s'est versé 1 an et demi de gilets jaunes, 2 ans de Covid. En tout, il a eu une journée sympa à faire du jet ski en août 2020. Le reste, c'était pourri. Hein, s'il écrit ses mémoires, ça s'appellera « J'ai eu le parcours d'une chanson de Stromae sur la fin de vie, mais sans le groove ». Donc, si ça se trouve, il va pas y aller. Pour La République En Marche, ça va être Jean Castex, hein, le mec le plus foutraque du monde, capable de chercher 6 jours ses lunettes alors qu'il les a sur le nez. Il peut tout à fait, en cas de victoire, se foutre à la tribune et crier 4 citrons, brandade de morue, papier toilette, avant de réaliser qu'il lit sa liste de courses. À gauche, n'en parlons pas, Christiane Taubira, la dame lyrique qui connaît 14 synonymes pour chaque mot, comme présidente, je sais pas, mais au mot croisé, bon, elle fera un carton, n'est pas encore candidate non plus. En fait, elle va se plier au verdict de la primaire populaire. Alors, c'est une primaire à laquelle ne participent ni Yannick Jadot, ni Mélenchon, ni Fabien Roussel, même Hidalgo a dit « laissez-moi, je m'en fous ». C'est la première primaire à une seule personne. C'est l'équivalent de dire à ses amis, ce soir je vais participer à une orgie sur le thème de la Rome antique, et se retrouver seul chez soi à mater la bande-annonce de l'Astérix de Guillaume Canet. Alors, à la question, qu'est-ce que la primaire populaire? Ce sont des gens de gauche qui vont voter sur Internet. Ils sont 110 000 inscrits pour l'instant, afin de désigner qui de Christiane Taubira ou de Taubira Christiane va les représenter. En fait, c'est le premier sondage en ligne à être pris au sérieux. En général, les votes en ligne, c'est CNews qui écrit « Éric Zemmour est-il ?» avec 3 propositions. 1. Une belle personne. 2. Un mec génial. 3. Dieu. Et là, Elisabeth Lévy en plateau ajoute « Je trouve que vous avez été un peu méchant avec Éric Zemmour ». Puisqu'on est à gauche, un mot d'Anne Hidalgo. Elle va bien. Elle remonte dans les sondages. Là, elle est à 4,5% des intentions de vote. Ça monte, ça monte. Elle peut finir à 4,6. Alors, samedi, elle était à Jarnac, un village d'origine de François Mitterrand. Parce que Mitterrand, c'était Jarnac. Macron, c'est Jean-Merde. Mitterrand, dernier homme de gauche à avoir été président, puisque l'autre, c'était Hollande. Hein. Sinon, pas de nouvelles d'Arnaud Montebourg. Voilà, on est à la limite de l'alerte enlèvement, sauf que lui, personne ne voudra le récupérer. Ça, c'est pour la gauche. À droite, c'est compliqué aussi. Éric Zemmour a récupéré le LR Guillaume Pelletier. Mais lui, c'est comme un Pokémon. C'est pas facile de l'attraper parce qu'il se balade. Il est démarré au Front National Jeunesse, puis a suivi Bruno Maigret, ancien FN, puis s'est rapproché de Philippe Devilliers, a fait 12 ans à l'UMP, devenu LR. Enfin, il papillonne tellement qu'il va finir au Musée d'Histoire Naturelle avec une épingle dans le bide. Zemmour a juste eu le temps au téléphone de lui dire « Bonjour, c'est Éric », que l'autre répondait « C'est d'accord, j'arrive ». Il a couru jusqu'au QG avec un stylo avant que Zemmour change d'avis. Hein, il a signé son contrat en écrivant « Ta petite chose ». Valérie Pécresse, elle, a déclaré que perdre Guillaume Pelletier était, je cite, « un non-événement ». Elle a dit de lui qu'il était isolé, que tous ceux qui le soutiennent perdaient les élections. Pelletier, à un moment, était quand même numéro 2 de LR. Donc s'il était si nul, ça en dit long sur le niveau des numéros 3, 4, 5. Enfin, le centième de l'organigramme, ça doit être un sacré con. Il doit même pas savoir parler. Marine Le Pen a même dit de Pelletier, là où il passe, les campagnes trépassent. Mmh. Grosse punchline. Dans le game, il y a Booba, Orelsan, Joule pour les analphabètes et Le Pen. Hein, elle se fait appeler LP. Ça passe mieux dans le monde de la musique. Alors, elle, ce week-end, était à Béziers. Elle jouait à domicile. Il y a un article dans Libération qui explique que Robert Ménard, maire de Béziers, lui a fait visiter la ville pendant 12 heures. Mais en fait, en 12 heures, vous faites 30 fois le tour de Béziers. Hein, donc, ils ont tourné sur place. Tels des hamsters quand on leur installe une petite roue. Ils sont même allés à la fête foraine. Un marine, nous dit le journal, a mangé un churro. Hein, ces choses longues et sucrées qui ressemblent à Paul Mirabel si c'était roulé dans le miel. Ensuite, Ménard lui a offert son parrainage. Il a offert le parrainage à Marine Le Pen. Alors, il en faut 500. Donc, si elle passe 12 heures avec chaque pleu-pleu qui lui signe le papier, j'ai calculé, elle peut tous les avoir en juin 2023. Alors, sinon, pour revenir à Valérie Pécresse, samedi, vous savez, elle a fait un petit point après. presse avec un masque FFP2, hein, celui qui sert à quelque chose. Mais elle l'a mis à l'envers, avec la barrette en bas. Tout le monde a remarqué ça. Alors qu'en fait, la barrette est en haut. Le shit, c'est l'inverse. Quand vous allez en acheter à Saint-Ouen, ça sert à rien de monter dans les étages. Hein. La barrette est en bas. Bref, Pécresse n'est pas douée. Enfin, quand Pelletier était numéro 2 des Républicains, elle ne devait pas être loin derrière. Alors sinon, sachez que l'eurodéputé Paul Larouturou, hein, ce qui ressemble à une expression de Ribéry avant quand on le voyait, quoi, s'est mis en grève de la faim pour réclamer l'union de la gauche. Alors les gens lui ont dit, vous êtes sûr, vous voulez pas plutôt choisir une vraie cause, hein. Hier, il était sur Inter, dans le 13-14. Le 13-14, c'est le 7-9 des gens qui n'ont pas de notoriété. Hein. Il a réaffirmé, si l'union de la gauche se fait, il mange. Sinon, non. Donc, il sera inhumé le 3 février. Enfin, aucune nouvelle de Jacques Cheminade. Je suis très inquiet. Chaque présidentiel, il est là. C'est la personne qui déclarait préparer la présence permanente de l'homme dans la banlieue lointaine du système solaire, parce que lui, la barrette, il savait qu'elle était en bas. Pesquet est revenu sur Terre, les Bogdanov sont morts, Cheminade a disparu, sale temps pour l'espace. Hein, la seule à monter tout là-haut, c'est Hidalgo. Je crois qu'un sondage la donne à 4,7%.
Merci. Et Tanguy, tu seras à Marseille le 26 février, à l'espace Julien.
Oui.
Hey Johnny Jen, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides.
Cette musique revient évidemment dans le documentaire Jane par Charlotte. Oui, la musique. Mais il n'y a pas tant de musique que ça, finalement. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de musique. Et on est vraiment dans une discussion, dans des échanges, dans des regards et dans des silences aussi, vous qui aimez les silences.
Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas beaucoup de musique, mais j'ai voulu mettre des musiques du dernier disque de ma mère, parce que c'est elle qui l'a écrit. Et puis sinon, des instrumentaux qui étaient les miens. Et puis après, on la voit chanter deux fois des chansons de mon père.
Et il y a un sujet sur lequel il n'y a aucun silence, il y a une forme de communion, ce sont les chiens. Passion aux chiens, tout est deux. On a l'impression qu'à travers, alors sans faire un truc un peu psychanalytique ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas dans ces conversations-là, il y a une rencontre évidente.
Mais vous adoptez en même temps deux chiots, non, c'est ça?
Oui, alors moi j'ai malheureusement la mienne est morte, toute jeune, mais c'est vrai qu'on a, en fait, on a grandi avec des chiens. Donc, qui pètent, ouais. Pas tous, mais Yvan était contre les chiens. Donc je me suis battue pendant 25 ans.
C'est pour ça qu'il a fait chien stupide, du coup, il s'est dit tiens.
Je sais pas. En tout cas, là, il a accepté.
Même un mauvais psy pourrait l'aller chier comme ça.
Il a enfin cédé, ce qui fait que je... Voilà, on est à nouveau une famille à chiens.
Jane par Charlotte sort demain au cinéma et dans le monde de la culture. Ouais. Leïla, quoi d'autre ?
On vient d'apprendre que lors des funérailles de Lady Di, Buckingham Palace aurait préféré que quoi ?
Que ce soit pas Elton John qui chante.
Oui, ce soit pas filmé.
Ouais, c'est ça, absolument. Il ne voulait pas du Candle in the Wind d'Elton John.
Qui était à Marilyn.
Parce qu'il considérait que c'était trop sentimental.
Ouais, non, c'est pas ça. C'est que si t'as Elton John qui vient chanter ça, tu dis il y a quelqu'un qui va pas fort autour de la maison. Quoi.
C'est ça. Mais non, mais en fait, il voulait surtout pas cette version-là parce que trop sentimental, sans doute qu'il convenait pas suffisamment au protocole, trop émotif, trop manque de pudeur peut-être, hein, si on revient à cette histoire de démonstration sentimentale. Tout ça pour vous demander, Charlotte, qu'est-ce qui est de plus anglais
qu'est-ce
chez
joue,
vous
qu'est-ce que vous voulez qu'on joue à votre enterrement?
Non. Qu'est-ce qu'il y a de plus anglais chez vous? Même dans des petites habitudes, je ne sais pas.
Le Marmite.
Ah, cette,
vous connaissez?
Oui, bien sûr, c'est un goût particulier.
Et d'ailleurs, on en trouve en France maintenant, c'est devenu très banal. Ouais. Mais c'est vrai que faire goûter du Marmite à quelqu'un
qui découvre,
c'est assez...
Qu'est-ce que c'est? Et vous le mangez comment?
Attends,
du beurre?
Oui. Alex ne sait pas.
Moi non plus.
Ah. Alors c'est un extrait de... de concentré... Enfin, c'est du concentré de bouillon.
Ouais. Des légumes, de bouillon.
De légumes.
Mais oui, je
alors il y a le Vegemite.
Avec de la levure et du sel.
Ouais, le Vegemite, c'est la version australienne. Et le Marmite, c'est la version anglaise. Voilà.
Et vous le mangez comment?
Alors, du pain, du beurre, et ça par-dessus. Mais pas trop.
Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a un resto très de grande notoriété et très connu à New York, dans lequel vous, vous déjeunez toutes les deux, qui s'appelle Russ and Daughters.
Oui. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'endroit préféré de ma mère, et le mien aussi d'ailleurs.
Autre on a
fait
tout.
Je sais pas si vous avez le temps.
Non, on n'a pas le temps. Voici Alexandre Cominet.
Bon, mon héros du jour, les amis, c'est la police.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ah là, non, alors je sais.
T'as des problèmes ?
Non, justement, au contraire, je sais que sur France Inter, on a plus une audience bobo, gaucho, bio, écolo, bolchevico, anti-flic, hein, même si vous êtes les premiers à composer le 17, dès qu'un lampadaire clignote un peu trop fort après 22 heures. Récemment, j'ai été dans un commissariat pour porter plainte, pour des raisons que je tairai, et parce que je veux pas salir le nom de Daniel Morin en public, mais
ouais,
bref,
c'est pas le moment.
On est quand même content de pouvoir porter plainte, hein, en toute sérénité, hein. Enfin, quand on est un mec, hein, et quand on porte plainte pour vol, pour toucher du fric de l'assurance, la police, c'est pas un peu des copains, hein. Et quand on se sent pas en sécurité, qu'on voit des flics dans la rue, on n'est pas un peu rassuré, hein. Enfin, quand on est blanc. Mais oui, je voulais parler de la police. Alors, évidemment qu'il y a des abus de pouvoir, des racistes, mais pas que dans la police. Hein, vous pensez que sur Inter, il n'y a pas d'abus? Hein? Vous pensez que Leïla, elle m'a jamais mis de coup de pression? Ah, elle rigole, ouais. Quand j'oublie de mettre du sucre dans son café, elle me tase. Franchement, les flics, ils ont vraiment pas un métier facile. Ils sont courageux, ils sont souvent mal payés, ils ont toutes les fins de semaine à faire à des types comme moi aux sorties de boîte à 5h du matin. Enfin, sauf au mois de janvier, car je vous le rappelle, je suis en détox.
Hein. C'est vrai.
Et je me suis déjà vu ivre, franchement. Ouais, parce que j'ai des potes super qui, au lieu de me retenir, filment.
Ouais, c'est tendance.
Et j'ai vu les images. Franchement, j'avais envie de me foutre en garde à vue. Hein, sur la vidéo, on me voit dire aux flics, hey, un flic qui mange des chicken nuggets, c'est pas du cannibalisme. Ah, coup de matraque. Coup de matraque, vraiment. Hein, et faut me voir dire, ouais, je connais mes droits. Ouais. Donc bourré, en plus d'être lourd, je me prends pour Badinter. J'ai un pote flic, moi, qui me raconte ce qu'il fait chaque week-end, et franchement, c'est une assistante sociale avec des monotes. Hein, il passe beaucoup plus de temps à sauver des cassos que faire des bavures. Et en France, la police, elle est gâtée niveau criminel cassos. Hein. La semaine dernière, à Bourg-en-Bresse, il y a un mec qui a braqué un bureau de tabac, mais en partant, il a oublié sa carte d'identité.
Classe.
Alors deux options, soit le mec c'est le professeur de la Casa des Papels et il a laissé un faux indice qui fait partie d'un plan sur 5 ans qui va le mener à vider la Banque de France, soit c'est un mec de Bourg-en-Bresse. On part sur la 2. Je voulais rendre hommage aux flics parce qu'ils ont pas un métier facile. À part à Bourg-en-Bresse, apparemment. Mais c'est vrai qu'on entend souvent parler des mauvais flics. Et heureusement, hein, car il faut que ça se sache. Mais ils sont là, les bons. Hein, sinon, il n'y aurait pas le fantasme du policier. Hein, bien musclé, un peu sévère, sourire en coin. Bon, je l'ai encore jamais croisé, hein, à part aux enterrements de vie de jeune fille. Alors que le fantasme du cassos, il n'existe pas. Hein, on n'a jamais vu un Chippendale couvrir sa teub avec sa carte Pôle emploi. Et d'ailleurs, chers amis de la police, je vous dis à tout à l'heure, car je viens, après l'émission, déposer une main courante contre Leïla.
Merci. Jane par Charlotte, c'est au cinéma, c'est touchant, c'est émouvant. Vous apprendrez la rencontre de ces deux êtres humains fragiles, pudiques et avec lesquels on a grandi et on continue de grandir en voyant ce film. Charlotte, vous serez au casting. J'ai presque envie de dire, c'est comme un écho à ce documentaire de En Thérapie.
Ah oui.
Tout à l'heure, j'ai demandé si c'était un peu, il y avait un côté psychanalytique, mais c'est vrai qu'on avait nous été bouleversés par cette série sur Arte. Vous avez déjà tourné en...
Là, j'y retourne. En fait, je suis venue, j'étais en costume.
D'accord.
J'ai pris une moto, moto-taxi.
Est-ce qu'ils ont
venu vous voir et j'y retourne.
Est-ce qu'ils ont gardé le principe de tourner comme un plan séquence, c'est-à-dire d'apprendre votre rôle et votre texte, de le faire d'une prise ou c'est un
oui,
peu plus...
Oui, c'est des prises très très longues. Effectivement, des prises très longues et c'est des tunnels de texte.
Ça a l'air super comme ça. Le bonheur.
Et puis il y a un événement dont vous parlez dans le documentaire et qui est l'ouverture de ce musée, c'est-à-dire que la visite rue de Verneuil de votre maison, de la maison de Serge Gainsbourg, qui continue d'être à l'extérieur comme une espèce de temple avec des tags, avec des messages, avec cette espèce de proximité qu'il y avait et d'ailleurs qui surprend encore Jane peine aujourd'hui de dire, mais tu te rends compte, il y avait rien qui nous séparait de l'extérieur, malgré la notoriété, la popularité. N'importe qui pouvait passer, et c'était Serge qui ouvrait la porte.
Oui, j'ai un rapport particulier avec cette maison, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de jamais avoir fait ce qu'on appelle un deuil, parce que j'allais m'y enfermer.
Le fameux tri, ouais.
Une fois qu'on rentre là-dedans, dans cet endroit, le temps s'est arrêté en 91, mais c'est comme s'il allait revenir.
Et d'ailleurs, Jane ne s'était jamais permise de vous demander de rentrer. Cette maison est à vous, c'est votre héritage.
Ça m'a surpris, en fait, parce que Bambou, Lulu ont demandé, enfin, normalement, quoi, d'y aller. Et ma mère m'a jamais demandé, non. C'est vrai que quand mon père est mort, elle est partie sur la route et elle a chanté mon père jusqu'à aujourd'hui.
Ouais.
Et c'était sa manière à elle de vivre son manque. Moi, je l'ai vécu très isolée, rue de Verneuil.
Et quand est-ce qu'on pourra aller au 14 rue de Verneuil ?
Alors, je croise les doigts encore.
Il manque quelques éléments ?
Non, c'est...
C'est quoi ? C'est
avec le Covid, c'est long.
Ouais, c'est vrai.
On a pris du retard. Mais normalement, je pense pouvoir dire printemps.
Et c'est ta musique qui sera originale, puisque ça sera chronométré, entre guillemets. On aura une demi-heure pour pouvoir se promener dans cette petite maison.
Mais c'est tout petit, donc ouais. On peut pas... Et c'est pour ça que pendant 30 ans, j'ai quand même eu beaucoup de mal à prévoir la chose. C'est que c'est frustrant, je trouve, pour des personnes de passer justement que 30 minutes et après de repartir. Donc on a cherché un autre lieu pour pouvoir les accueillir une fois la visite de la maison terminé. Il y a
prolonger.
Une autre partie de voilà un musée plus classique, mais ça va être par groupe de 5. C'est j'espère aussi que ce sera une expérience intime, parce que
clairement.
Sinon ça n'a pas d'intérêt.
Des excuses à présenter, Morgane Cadignan.
Oui, désolé pour Leïla, Paul, Alexandre, qui ont été nuls, mais complètement mauvais à chier au blind test spécial Jane Birkin. Heureusement qu'avec Tanguy, on était là pour se partager les réponses. J'ai plus les stats exactes, mais je crois qu'à 50-50, on était bien.
Je crois que Tanguy a tout fait, ouais.
Et enfin, désolé pour les cadreurs, les caméramans, les chefs opérateurs qui se sont fait virer d'un film parce qu'ils avaient fait un faux plan. Et ouais, quand c'est Charlotte Gainsbourg, bah c'est de l'art, les gars. C'est injuste, mais le monde est injuste.
C'est au 5 bis rue de Verneuil, et c'est ça, il y aura le 14. Les deux adresses du musée en attendant, envoyez-moi un texto et on se fera un plaisir d'annoncer l'ouverture de ce musée Gainsbourg.
D'accord.
En attendant, allez au cinéma demain pour voir Jane par Charlotte. Merci Charlotte Gainsbourg d'être venue. Et demain, c'est Juliette Binoche qui sera notre invitée. Bonne journée, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.